Chers amis, la suite de notre étude sur l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, c'est, premièrement, l'amour miséricordieux de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Deuxièmement, l'appartenance à Jésus-Christ. Chers amis, ce qui se passe dans le don se produit aussi dans le pardon. Certains adultes ont voulu déculpabiliser le pécheur pour lui faire découvrir la miséricorde de Dieu. L'intention est louable, surtout en cas de traumatisme psychologique, mais c'est une erreur de croire que la miséricorde est permissive ou bonasse. D'abord, elle ne pardonne que celui qui reconnaît humblement son tort, comme le prodigue qui se pend carrément au cou de son père. Elle ne donne pas raison, elle ne minimise rien, elle ne dit pas que rien ne s'est passé. Bien au contraire, le pardon reçu souligne encore plus la noirceur du péché. L'endroit où le prodigue réalise le mieux ce qu'il a fait, ce n'est pas quand il garde ses cochons. Là, il pense au frigidaire bien garni de la maison familiale, mais c'est quand il pleure de joie, tout contre son père, enlacé par les bras qui le pardonne. Là, il sait quel amour il a bafoué, quelle tendresse il a narqué, celle d'un papa aux cheveux devenus blancs de soucis. Il comprend enfin que l'épaule dans laquelle il enfouit son visage en larmes est vraiment l'épaule d'un portement de croix. Le sillon qu'il accueille, c'est lui qu'il a creusé. Il ne risque alors aucun traumatisme parce que le pardon est plus fort que son péché. Mais ce n'est quand même pas entièrement confortable pour lui. Il demeure confus, non de l'acte commis, mais de la bonté reçue surprenante et indue. Et puis, la miséricorde reçue va entraîner une reconnaissance éperdue, source d'une exigence encore plus forte qu'avant le péché. Tous les convertis le sentent très bien. Que faut-il faire? Ou faut-il vraiment que je fasse quelque chose de particulier? S'écrit-il avec l'apôtre Paul dans Actes chapitre 22, verset 10. Souvenez-vous, que faut-il que je fasse? What shall I do? Was muss ich machen? Quand un agent de police te met une contravention, tu ne lui en sais aucun gré, tu ne lui fais aucune promesse, sinon tactiquement pour l'amadouer. Il ne te le demande d'ailleurs pas. Son rôle à lui est avant tout dissuasif qu'on ne s'y reprenne, sinon il va t'en coûter cher. S'il est bon enfant, il te fera peut-être un peu la morale, mais sans plus. La loi n'a donc qu'un rôle limité, elle n'atteint pas l'intime de ton cœur. Pour cela, il faudra que tu reprennes autrement ton infraction. Elle peut être grave que tu la situes ailleurs, face à Dieu, en confession par exemple. Mais alors, tu comprendras que la grâce est plus exigeante que l'amende. Il n'y a que la miséricorde en Dieu, mais c'est elle seule qui nous tourmente sérieusement. Chers amis, ce que je vais vous dire, je le dis autant pour moi que pour vous. Ce que nous redoutons le plus, c'est de nous exposer à l'amour miséricordieux parce que nous craignons de devoir lui donner notre vie en reconnaissance. Je répète, ce que nous redoutons le plus, c'est de nous exposer à l'amour miséricordieux parce que nous craignons de devoir lui donner notre vie en reconnaissance. Et nous n'avons pas tort. Rien de plus dangereux que l'action de grâce, si elle est bien comprise. Je ne repartirai pas de la croix de Jésus-Christ, les mains dans la poche tout simplement, et en sifflotant. Non, ou bien je n'ai absolument rien compris. Donc, il est périlleux de se laisser aimer. Il est parfois plus difficile d'accepter le pardon que la punition. L'amende est limitée, mais le merci est sans fin. Payer, c'est être quitte. Rendre grâce, c'est se lier. L'amour divin ne nous materne pas, il nous provoque. Le pardon appelle le don. Alors que faut-il faire pour surmonter la peur que nous ressentons de nous laisser aimer et de devoir aimer en retour? Pas d'autre solution que de nous jeter dans les bras de l'amour. Seul l'amour apaise la frayeur qu'il cause. Oui, seul l'amour cicatrise la blessure qu'il ouvre. Quand un homme se lance dans le don de lui-même, le mariage ou la vie avec Christ, il bénéficie d'une grâce accordée à sa jeunesse. Sans être naïf ou sûr de lui, il aborde son engagement dans la joie. Il veut faire de sa vie quelque chose de beau, d'où une certaine euphorie. À Cap Kennedy, la fusée est bien partie, propulsée par ses moteurs auxiliaires et la combustion d'un carburant monstrueux. À ce rythme, la planète visée sera vite atteinte. Mais les forces s'épuisent vite. Tu le sais, la majeure partie des divorces se produit dans les 5 premières années du mariage. Toute vocation a besoin rapidement d'un second souffle, non pas seulement d'un recyclage professionnel, mais d'une seconde conversion spirituelle. Au terme de sa trajectoire, la fusée spatiale se réduit à une capsule, à un satellite, qui sont censés être sur orbite autour de l'astre. La dynamique a complètement changé. Ce n'est plus celle d'une autopropulsion, mais celle d'une gravitation. Il en est de même dans nos vies. Il est un moment où nous avons l'impression que nos sources d'énergie sont taries et que nous ne tenons plus que par l'attraction du Christ. Toute notre assurance provient d'un autre, à la merci duquel nous sommes entièrement attachés désormais. Nous avions la foi au départ, et nous l'avons encore plus à l'arrivée. Nous nous sommes lancés sur une parole, un go. nous ne tenons plus maintenant qu'à un fil au-dessus d'un vide immense. Nous étions actifs, nous voici passifs dans la mouvance de l'astre divin. Ou si cette opération, qui se reproduira plusieurs fois, doit être réussie de toute urgence, question de vie ou de mort. Oui, cher ami, si le « suis-moi » de Jésus-Christ te paraît énorme, dis-toi bien que tu l'entendras encore à plusieurs reprises dans ton existence. Quand tu auras à franchir des seuils importants qui tiendront à l'âge, à la profession, aux engagements, au deuil, aux arrachements, tu te sentiras momentanément déstabilisé. Tu devras retourner à Bania et répondre à la question du Christ pour toi, en ce moment même, de ton parcours. Peux-tu me dire, qui suis-je, moi? Et ta réponse sera la même, mais avec tout un poids d'expérience, ça change tout. Ne crains pas la monotonie, ta foi connaîtra de passionnantes péripéties, crois-moi. Ce n'est pas la routine qui te guette, mais tu peux me croire, ça va être exaltant. La seule manière juste de craindre, c'est d'être délicat, c'est-à-dire craindre de ne pas aimer assez. La peur ici n'est pas autre chose que l'amour, c'est l'humilité de l'amour. Le summum de la charité, c'est de dire au Christ, « Je ne t'aime pas assez !» Alors que bien des gens se disent à l'intérieur d'eux-mêmes, « J'en ai fait suffisamment comme ça !» Commentant le passage de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 18, où il est dit, que l'amour parfait bannit la crainte. Un serviteur de Dieu propose cette jolie parabole. Imaginons, dit-il, deux épouses. La première qui trompe effrontément son mari en son absence. Et la seconde qui est aux petits soins pour lui et lui mijote tendrement des petits plats. Toutes les deux craignent quelque chose. La première, elle craint que son époux vienne la surprendre. La seconde, elle craint qu'il s'en aille par manque d'affection. La première crainte est servile, mais la seconde, elle est pure. Plus tu aimeras le Christ, plus tu lui feras cette prière. Seigneur, ne permets pas que je sois séparé de toi. Pourquoi? Parce que c'est l'ami très cher qui est susceptible de faire le traître idéal, comme dans l'histoire de Judas. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne peux pas lui manquer. Plus je lui suis lié, plus mon reniement serait grave. Ou si Jésus-Christ ne parle-t-il de la damnation qu'à ses proches? Lis et note Saint Luc chapitre 12 verset 4 à 5. Car être appelé par lui, c'est une responsabilité. La Bible nous dit, à qui l'on aura donné beaucoup, il sera beaucoup demandé et à qui l'on aura confié beaucoup, l'on réclamera davantage. Saint Luc chapitre 12, verset 48. Plus on sème, plus on fait serment de s'aimer toujours. Le serment n'est pas une invention de la loi, c'est la dynamique d'un véritable amour qui entend ainsi conjurer sa propre mort. Lors d'une noce, nous ne faisons pas tapisserie passivement en sanglotant, narquois ou en songeant, Dieu sait quoi, que cet amour a une chance sur trois seulement, d'aller, comme tant d'autres, à la casse, alimentant d'une carcasse supplémentaire le cimetière des accidentés du mariage. Que faisons-nous pour nous aider à tenir parole quand nous donnons notre foi une fois jurée? Ne sommes-nous pas un peu complices du reniement des autres? Dis-toi bien que l'amour est tué surtout par une accumulation d'indélicatesse. On peut se relever d'une chute occasionnelle, même sérieuse. Il est plus difficile de remonter une pente glissante, même si c'est une pente douce. Cher ami, voilà ce que je dois te dire au terme de cette première partie. J'ai voulu t'indiquer une attitude envers Jésus-Christ. J'ai voulu te montrer le sérieux de l'amour et la joie merveilleuse qui en résulte. C'est une loyauté de ma part, et c'est indispensable pour pouvoir aller ensemble plus loin. Maintenant, dans notre deuxième partie, je vais te parler de l'appartenance à Jésus-Christ. Je me rappelle la phrase de Jésus à ses compagnons qui étaient attristés de le voir s'en aller alors qu'il commençait tout juste à deviner son merveilleux mystère. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille », a-t-il dit. Jean, chapitre 16, verset 7. En effet, le départ de Jésus-Christ conditionne la venue de l'Esprit-Saint, et la venue de l'Esprit-Saint constitue le croyant achevé en même temps qu'elle te propulse sur les routes du monde. Cher ami, au début du IIIe siècle, il y avait Tertullien, un père de l'Église très génial, fabuleux, mais au fichu caractère. Compare l'extension de l'Église, ou on peut dire au bouturage de certaines plantes, ou au marcottage du fraisier dont les tiges mises en terre, donne un autre plan que l'on peut couper du premier. Rien de plus capital et de plus passionnant que de revenir à ces 50 jours qui ont séparé la résurrection de Jésus-Christ de la Pentecôte. C'est la meilleure école de la foi, et l'on s'y trouve en bonne compagnie avec ce qui reste des apôtres, sans compter la présence de Marie les 10 derniers jours, selon Actes des apôtres, chapitre 1, verset 13 à 14. je te propose quelques flashs sur des scènes connues. Donc, nous sommes dans la ville de Jérusalem, encore tout agitée par la fête de la Pâque, qui ramène chaque année plusieurs centaines de milliers de pèlerins, déferlements colorés et bruyants, qui obstruent les ruelles en chantant et que le Romain surveille avec une militaire précaution pour empêcher toute provocation et toute émeute. Et cette fois, l'atmosphère est bien plus tendue. Les festivités religieuses ont été troublées par un procès très retentissant qui a remué l'opinion entière. Tout s'est terminé par une exécution capitale au lieu accoutumé, sous les remparts et les gibets de la crucifixion, tout sanglotant et tout sanglant, et ceci sur une petite butte qui émerge au milieu d'un cimetière. Le haut clergé a enfin réussi à se débarrasser du dénommé Yeshua, qui lui donnait ces temps-ci bien du fil à retordre. Là, il y avait peur légitime d'un soulèvement populaire. Là, il y avait vraiment la peur légitime d'un grand soulèvement qui serait réprimé dans un bain de sang par l'occupant. Ou bien, simplement, la jalousie sordide envers un concurrent adulé. Va savoir. En tout cas, ils ont eu sa peau dans une procédure expéditive. Pontius Pilatus, qui se moquait de cette histoire de ce juif, a bien essayé par pitié pour un prévenu plutôt sympathique, ou par calcul politique, le saurait-on jamais, de détourner la colère sur un terroriste de bas étage, un certain Barabbas, spécialiste du coup de poignard. La diversion a malheureusement échoué. Les prêtres ont soudoyé la foule et chacun hurlait avec les loups en scandant un slogan sanguinaire « En croix, mettez-le en croix !» Yeshua, lui, dont on disait des merveilles, n'a pas ouvert la bouche, n'a pas remué le petit doigt pour se défendre. Un agneau conduit à l'abattoir, comme tous ceux qu'on a égorgés rituellement pour la fête. Quant à ses partisans, une véritable débandade. Au grand prêtre qui l'interrogeait sur sa doctrine, Jésus a répondu « Demande à ceux qui m'ont écouté ». Saint Jean chapitre 18, verset 21. Mais où étaient-ils donc, ceux qui l'ont écouté? Pas dans la salle, en tout cas. Ou alors, bouche cousue. L'apôtre Pierre a bien essayé de tirer l'épée, souviens-toi, sous les oliviers de Gethsémané. Mais il s'est fait rabrouer par son maître. Un temps, il a suivi de loin. Mais tout à coup, il a été reconnu à son visage et à son accent, car vois-tu, il est tout simplement de la province de Galilée. Il a donc pris ce langage. Il paraît qu'on l'a rencontré effondré dans un coin de rue, imagine un peu cela, et pleurant toutes les larmes de son corps. Seules les femmes ont été courageuses, comme toujours. Mais les bons sentiments suffisent-ils? Les pleurs, les calmants, alors qu'il faudrait... Oh oui, il faudrait plutôt, carrément, un coup d'éclat. Et puis, vois-tu, un bruit curieux a circulé le surlendemain de l'exécution. Car le cadavre de Yeshua avait tout à coup disparu. La lourde pierre ronde qu'on avait roulée à l'entrée de la grotte avait été manœuvrée en sens inverse, livrant le passage. Qui donc avait osé rompre les scellés apposés sur la pierre par l'ordre du procurateur? Qui avait pu tromper la vigilance des soldats? Il faudra tirer cela au clair. Certains parlent de résurrection, mais c'est incroyable. Ça serait bien la première fois qu'une chose pareille se produirait. On voudrait quand même bien savoir où sont les compagnons de Yeshua, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils comptent faire dans les jours qui viennent. Mais pas moyen de les interroger. Ils doivent être dans un triste état, morts de peur et de honte. Encore un faux messie qui vient de disparaître, un de plus. La prochaine fois, il faudra se méfier. Le plus important en attendant, c'est de reprendre ses occupations pour nourrir sa petite famille. Mais quand même, ce Yeshua était différent des autres. On croyait bien que... Mais voilà, n'en parlons plus. Ça nous fait quand même mal, très mal. Cher ami, j'ai essayé de traduire les sentiments de l'homme de la rue une fois qu'il a été dégrisé et qu'il a repris ses esprits. Où étaient les apôtres? Du moins ceux qui restaient, car l'un d'eux, tu le sais très bien, c'était un traître, il s'est pendu. Il s'était terré dans une maison amie. Et là, ils avaient, les apôtres, ils avaient tiré soigneusement les verrous, car ils avaient peur, une peur bleue, des meneurs juifs. Ils n'ouvraient la porte qu'avec grande précaution. Seul le plus courageux de tous, Thomas, qui était carrément un casse-cou, sortait pour aller aux nouvelles et au ravitaillement, sans doute à la nuit tombée. Il n'a pas été récompensé de son zèle, on peut bien le dire, puisque c'est en son absence que Jésus-Christ s'est montré vivant à ses amis. On le lui a dit après coup, à son retour, mais il a haussé simplement les épaules. Ce n'est pas à moi qu'on fera croire ces balivernes. Jésus s'est montré à nouveau, heureusement, 8 jours plus tard, une terrible chance pour notre ami Thomas. Confus et, on peut dire, tremblant, il a pu mettre même son doigt dans les plaies du Seigneur pour vérifier que ce n'était pas un fantôme et qu'il n'avait pas une hallucination. pour comprendre surtout que ces blessures ne disent pas la mort, mais la vie, qu'elles ne sont pas des trous, mais des voies d'accès et des fontaines, qu'elles ne révèlent pas le manque, mais le don, et tout a fini par un acte de foi. Imagine, mon cher ami, que Jésus-Christ, par impossible, ne soit pas ressuscité. Il est facile alors de reconstituer le scénario. Je pense ici à un très beau chant de Noël, très ancien, qui est un hymne à la Pentecôte et fait surgir l'esprit sur des apôtres tout désemparés par la disparition de leur rabbi bien-aimé. Amis, écoute un peu ces très belles paroles. Il est parti et nous restons tout tristes, comme des enfants qui sont abandonnés. Et ceux qu'en étaient rêveurs ou idéalistes, on croyait bien qu'il allait tout changer. Il est parti, et maintenant on se cache pour évoquer les beaux jours du passé. Et puis on prie, car au fond, on s'attache à l'idée que quelque chose s'est vraiment passé. De fait, on imagine facilement toutes ces choses. Les 11 demeurent ensemble pendant une ou deux semaines bien cachées. Et d'abord, ils se taisent, effondrés totalement. Et puis, leur cœur s'apaise. Ils évoquent avec nostalgie les 3 dernières années. Ils tournent les pages de l'album de photos mentales avec de très belles vues sur le lac de Tibériade ou sur la procession des rameaux. Puis, tout à coup, ils se dispersent quand les rumeurs de la ville se sont calmées et chacun retourne dans sa province pour retrouver son travail et les siens inquiets de leur absence. Les semaines défilent, les mois aussi. À la Pâque suivante, ils montent à Jérusalem pour la fête et sans trop se faire voir, avec beaucoup de précautions, ils vont verser une larme sur le tombeau de Jésus-Christ dans les fossés de la ville. Les femmes les ont dévancés en faisant un peu de jardinage, en semant quelques fleurettes dans le jardin. La scène recommence l'année suivante. Et puis, peu à peu, le souvenir s'estompe. La ferveur se décourage en attendant que les amis disparaissent. C'est fini. Et bien fini. Personne ne saura jamais plus la belle et triste histoire. Il n'y aura jamais eu d'église, mais simplement une chapelle, le huis clos de quelques compagnons d'abord choqués, traumatisés, effondrés, et puis douloureusement pacifiés, avec un reste de honte ineffaçable. Une traînée de lumière aux yeux de quelques-uns, et puis c'est tout. T'es-tu, mon cher ami, vu dans ce tableau-là? Je n'ai pas cessé de penser à toi en le décrivant, car toi aussi, tu vénères un mort. Mais qui donc t'a parlé de lui? S'il était encore mort, tu n'aurais jamais entendu prononcer son merveilleux nom. Le club des amis de Jésus-Christ aurait disparu depuis longtemps sans laisser la moindre trace. Les historiens romains n'y auraient fait aucune allusion au cours des siècles suivants. Pas le moindre écrit de Jésus, puisqu'il n'a jamais rien écrit. Pas le moindre opuscule sur Jésus-Christ, ça n'intéresse plus personne. En tout cas, pas d'évangile, puisqu'il n'y a pas la moindre bonne nouvelle, en tout cas, en tout cela. Et surtout, pas de témoins, sinon ceux d'un enterrement lamentable. Rien qu'une anecdote minuscule qui a été livrée à la dégradation de l'énergie. Reste donc à savoir comment, mon cher ami, tu connais Jésus-Christ. Aucun doute, pour toi et pour moi, il est bel et bien vivant. Alléluia. Il fait vivre une église qui est son corps. Et il donne son Esprit Saint à ses témoins, et il s'organise le bouturage. On peut vraiment dire ça. Là s'organise le bouturage des communautés chrétiennes qui, eux, parviennent jusqu'à toi. Ni le temps, ni l'espace ne peuvent venir à bout de cet événement qui se prolonge. L'Église peut durer encore des siècles, et pas de danger que se produise une sorte d'usure. Elle est bien plus qu'une simple mémoire, elle est une présence. Ce n'est pas elle qui prolonge artificiellement le souvenir d'un disparu en organisant une association pour gérer ce souvenir. C'est le vivant qui la rassemble et qui l'anime. Ne mets pas les choses à l'envers. Ce n'est pas la résurrection qui dépend du corps de Christ, mais c'est le corps de Christ qui dépend de la résurrection. Depuis Pâques, Jésus-Christ n'est plus mort. La mort n'a plus sur lui aucun pouvoir, selon Romains chapitre 6, verset 9. Mais ça ne dépend absolument pas de moi. C'est vrai, mais il dépend de moi de montrer et de signifier que Jésus-Christ est vraiment vivant. Sinon, sa résurrection est purement subjective. Et dans ce cas, elle ne durera pas bien longtemps. L'effondrement aurait déjà eu lieu sans attendre 20 siècles. Oh oui, dans la maison où les 11 étaient rassemblés. Le vivant a tout à coup fait irruption et il a lancé le shalom pascal. Et la joie est revenue, immense, explosive et merveilleuse. Jésus-Christ a soufflé sur les siens son haleine fraîche de résurrection du ressuscité, et il leur confie d'annoncer le grand pardon et la rémission des péchés. Note bien Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. De grâce, ne reviens pas en arrière pour tirer ton mouchoir. Entre dans la ronde, dans la chaîne des témoins. ne dit surtout pas que cette lignée d'apôtres a détérioré Jésus-Christ. Alors qu'elle te le communique tout radieux, plus beau que jamais. C'est toi qui le ratatine avec ton romantisme pleurnicheur. L'Église n'est pas une veuve, car son époux est vivant. Gloire à Dieu, on peut même dire Alléluia. Sors l'Évangile du huis clos de ton chagrin, de ta timidité. Tu as le droit de te souvenir à la Sainte Cène, mais tu n'as pas le droit d'être nostalgique. L'apôtre Paul te demande de supprimer le rétroviseur, à moins que tu t'en serves pour la louange. Cher ami, essaye maintenant, tout simplement, d'imaginer les choses, d'imaginer le chemin vers la mer qui dégringole de Jérusalem vers l'ouest. Et dans le soleil qui baisse, là, tu vois deux hommes qui marchent côte à côte en marmonnant, la tête rentrée dans les épaules. Ils retournent chez eux après la Pâque, ou plutôt quelques jours plus tard, en proie à une visible déception, à une bifurcation. Voilà qu'il y a un troisième venu, qu'on ne sait pas trop bien d'où il vient, et qui les aborde poliment et leur propose de se joindre à eux. Ils acceptent cette offre. Quelques dizaines de mètres plus loin, le dialogue commence. « Vous n'avez pas l'air très gai, » dit l'étranger pour entrer en matière. « C'est inscrit sur votre visage à tous les deux. Et puis, puis-je savoir de quoi vous parlez en marchant ?» Saint-Luc, qui raconte cette histoire, a retenu le nom du plus hardi, sans doute c'était peut-être son informateur, va savoir, car il se nommait Cléopas. Du coup, l'inconnu paraît encore plus étrange, tant sa question est surprenante. De quoi peut-on bien parler en ce lieu et à cette heure, sinon du sujet qui se trouve sur toutes les bouches? Pour l'ignorer, il faut carrément ne pas être du coin, ni même peut-être du pays. Cléopas raconte donc pour la énième fois une affaire devenue banale. Il s'agit de Jésus-Christ, dont il a surtout retenu qu'il était puissant et qui rend incompréhensible, mais totalement incompréhensible, sa fin lamentable. On avait carrément envie de lui crier, mais défends-toi donc, dis au moins quelque chose, mais rien. Pourtant, on espérait bien qu'il libérerait Israël après avoir commencé à se libérer lui-même. Mais cruellement déçus, ils allaient repartir à leurs affaires lorsque ils décidèrent de rester quelques jours de plus, car des bruits circulaient disant qu'il se passerait une grande chose après 3 jours. En fait, pas le moindre événement nouveau, simplement des femmes amies qui, allant au tombeau de grand matin pour terminer l'embaumement du mort, rapporte tout à coup avoir vu carrément des anges qu'ils disent vivants. Témoignage insolite et totalement incroyable. Ah là là, c'est bien les femmes. Mais quand même assez troublant pour que des compagnons se rendent eux aussi sur les lieux afin de vérifier. On ne sait jamais. Pour les anges, c'est exact. Mais pour lui, rien, on ne l'a pas vu. L'étranger écoute attentivement sans un seul mot dire. Puis, il se décide tout à coup à parler. Ce qu'il dit est tout de même un reproche. Mais sur quel ton? C'est vrai, il faut être stupide pour lire régulièrement les saintes écritures sans les comprendre. Il faut s'emprisonner derrière une grille de lecture au lieu d'ouvrir le sens avec une clé de lecture. Il faut aussi avoir bien peu de, on peut dire, bien peu de dixième de vision pour faire des kilomètres à côté de cette clé sans même la reconnaître. Ils marchaient, eux, morts, avec un vivant. Ils marchaient, morts, avec la vie. Et la vie marchait avec eux, sans ressusciter encore dans leur cœur. Oui, des trois qui font chemin, côte à côte, qui est le plus étranger ou le plus étrange, le plus dépaysé, le moins acclimaté aux mœurs de Dieu? Mais la chaleur du cœur conditionne l'acuité du regard. Les poitrines deviennent tout à coup brûlantes et les pieds ne mesurent plus le chemin parcouru. C'est dans cette ferveur de tout l'être que font progressivement dans l'esprit des deux disciples un a priori gros comme une montagne. Alors, faisant comme Cléopas et son ami, ils ont reconnu, enfin, c'était le moment, leur Seigneur, parce que ils ont su le retenir dans leur cœur. Voilà tout le problème. Et c'est alors la scène que tu connais, immortalisée par le pinceau de Rembrandt dans un merveilleux tableau du Louvre. L'inconnu prend place à table, saisit le pain, fait la prière, et puis il le rompt avant de le partager. En parlant ici de fraction du pain, Saint Luc ne nous permet pas d'hésiter, c'est bien la Sainte Cène. Et voilà pourquoi aussitôt l'étranger disparaît de l'espace pour transparaître sur la table. C'est alors que les yeux s'ouvrent, quand il n'y a plus rien à voir, sinon le signe. Les yeux du corps perçoivent le sacrement, les yeux du cœur, selon Éphésiens, chapitre 1, verset 18, contemplent la présence. S'ajoute alors une autre ou un autre. Il fallait que, oui, il fallait qu'il disparaisse pour transparaître. Il l'avait dit lui-même, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Quand on sait une bonne nouvelle, peut-on la garder pour soi? Nos deux hommes sur le champ refont dans la nuit le chemin en sens inverse. de bonnes heures de marche pour retrouver les 11 et les surprendre par ce récit. Je les vois en pleine nuit, tambourinant sur la porte pour se faire ouvrir, comme plus tard l'apôtre Pierre, après sa délivrance, selon Actes chapitre 12, verset 13. Mais c'est le contraire qui se produit, note-le bien. Les gens d'Emmaüs ne causent aucune surprise aux autres, mais c'est eux qui reçoivent des autres confirmation de l'événement. C'est vrai que le Seigneur est ressuscité, mais on peut vraiment se fier à la nouvelle parce que il est apparu à Simon. Pierre n'est pas le premier à avoir vu le Christ vivant. Ce privilège fut réservé à Madeleine, chose étonnante, mais c'est son témoignage qui est le premier valable, qui authentifie celui de tous les autres. La chose se vérifie géographiquement, topographiquement, pourrait-on dire. Et plus les disciples s'éloignent de Jérusalem, et plus leur cœur s'en ténèbre. Plus ils reviennent à Jérusalem, eh bien, là est leur regard tout à coup qui s'illumine. On ne croit qu'en communion avec les apôtres, oui, c'est là que le ressuscité se manifeste. Si tu ajoutes le partage des biens, la mise en commun matérielle, eh bien, tu as les quatre signes, on peut dire les quatre signes par lesquels Saint-Luc décrit la première communauté chrétienne. Je répète, si tu ajoutes le partage des biens, souviens-toi, la mise en commun matérielle, ils l'ont fait, eh bien, tu as les quatre signes par lesquels Luc décrit la première communauté chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 44. Oui, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 14, Luc nous raconte, à sa manière, le dernier entretien du ressuscité avec les siens et les dernières consignes qu'il leur laisse en vue de la mission, et ceci avant de disparaître sous leurs yeux. Les 11 ne sont guère heureux d'être privés de sa présence sensible, et l'évangélisation de l'univers doit leur sembler un monde. Ils trahissent leur désarroi en posant une question significative. La fin, c'est pour bientôt? Une fin tout de suite et une fin sur place, voilà qui les arrangerait grandement. Mais Jésus-Christ les renvoie au mystérieux calendrier du Père Céleste. Yahvé l'Éternel, qui n'est dans la possession de personne. Il leur donne surtout la consigne de prier dans l'attente de l'Esprit Saint. Oui, parfois, il m'arrive de penser qu'il n'y a pas vraiment d'Église, mais une association purement humaine, que Jésus-Christ n'a peut-être pas du tout désiré cela dans son testament. Ce peut être une association fervente, pourquoi pas, comme celle qui défend la mémoire de Jean Moulin ou de Claude François à coups de statues, de plaques sur les maisons ou de noms de rues à coups de livres ou de disques. mais je ne peux pas la considérer comme une organisation inhumaine aux mains d'une poignée de manieurs d'hommes ayant le goût du pouvoir ou de l'argent. Car avec cette question lancinante, eh bien, tout n'est pas réglé, jamais. Jésus-Christ, cher ami, a-t-il vraiment voulu cela? Je ne le pense pas. Mes chers amis, chers amis et chères amies, nous allons terminer ici par la prière. Mais avant tout, j'aimerais te lire, il est vrai de lire, quelques paroles merveilleuses d'un très très ancien cantique qui est de 1920 et quelques. Les pages sont vraiment jaunies, on peut bien le dire, par l'âge. Mais tu vas entendre, c'est tout de même merveilleux. Écoute bien. Il vient le jour, choix indicible, où ce corps se relèvera, où se met faible et corruptible en gloire, il ressuscitera, oui, de son état méprisable. Il sortira tout radieux par ton pouvoir rendu semblable. Jésus a ton corps glorieux. Déjà, oui, déjà nous sommes par ta vie, Seigneur Jésus, ressuscité. Oui, déjà, par ta grâce infinie dans le ciel, nous sommes entrés en attendant ton jour de gloire qui va paraître avec éclat, comptant sur toi pour la victoire, car nous combattons tous ensemble le bon combat. Prions maintenant ensemble. Ô notre Sauveur, quelle famille privilégiée et bénie que celle dont tu es ainsi le Dieu, l'ami, l'hôte journalier, celui auquel on a recours en toutes choses. Que nous sachions t'appeler par la foi, comme Marthe et Marie, auprès de ceux qui sont malades, dans leur corps ou même dans leur âme. Ne les aimes-tu pas tous? Et ne pouvons-nous pas te dire de chacun, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Ô toi, auquel il n'est pas plus difficile de prononcer une parole de résurrection et de vie sur une âme qui périt, que de rappeler Lazare hors de son tombeau. Oui, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive. Toi qui as pu dire « Je suis la vie », celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Daigne, ô Seigneur, réveiller à salut ceux qui vivent loin de toi. Nous te le demandons pour leur bien éternel et pour ta gloire. Et nous, à qui tu as fait la grâce de te connaître comme notre Sauveur et notre Dieu et ami, apprends-nous à t'offrir ce que nous avons de plus précieux et à nous asseoir à tes pieds dans l'humilité et l'adoration pour n'être enseignés que par toi et pour vivre dans ta communion et dans ta société habituelle. que nous soyons joyeux de te recevoir et plein de l'assurance que tu es à nous et que nous sommes vraiment profondément coréam à toi pour le temps et pour l'éternité. Amen. Et, cher ami, chère amie, n'oublie jamais que Dieu t'aime. Ça, c'est une réalité. Et nous t'aimons également de tout notre cœur. Sois donc béni. Et merci pour l'intérêt que tu portes à ces messages, à ces études. Et bientôt, à nouveau, peut-être, je le souhaite. Au revoir, mon très cher ami et ma très chère amie. Au revoir.